VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 24 janvier 2022. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Eric Manirakiza.
Deux gros titres dans cette édition, la situation qui reste confuse au Burkina. Notre correspondant Lamine Traoré est déjà en ligne, il nous donnera les derniers développements.
Et comme d'habitude, nous aurons de Yaoundé, Emmanuel Juntap et son journal de la CAN.
Tout d'abord, le Burkina Faso, des tirs ont été entendus dimanche en fin de journée à Ouagadougou, près de la résidence du président Roch Marc Christian Kabore. Des soldats se sont mutinés dimanche dans plusieurs casernes du pays, dont celle de Sangoulé-Lamizana et de Babassi. Le gouvernement dément une prise de pouvoir par les militaires et rassure que la situation est sous contrôle. Un groupe de soldats a revendiqué sur VOA Afrique de meilleures conditions de travail. En ligne de Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré. Eric ?
Lamine, vous nous entendez ? Quels sont les derniers développements ?
Eric, il faut dire, Ouagadougou, c'est une nuit plus ou moins tranquille avec le couvre-feu qui a été instauré de 20h à 5h30 du matin. Donc la nuit a été calme, même si les étalons gagnés, en tout cas, sont qualifiés pour les quarts de finale. Il n'y a pas eu, en tout cas, de grande liesse de célébration ici. Mais on a entendu la nuit quelques tirs, des tirs sporadiques dans des quartiers, notamment le quartier Padoua et le quartier Gougdin. Aussi, un hélicoptère a volé quelques heures au-dessus de Ouagadougou, confirmé par plusieurs riverains. Voilà un peu la situation. Et à 7 heures de la matinée, on attend toujours un éventuel communiqué ou une réaction des officiels. C'est une situation toujours confuse à Ouagadougou. Mutinerie, comme l'avait dit déjà le communiqué du gouvernement tôt dimanche matin, est confirmé par le ministre des Armées, Aimé Barthélémy Simporé, ou tentative de coup d'État, en tout cas rien n'est moins sûr ici à Ouagadougou, au Burkina Faso.
La télévision nationale et la radio nationale diffusent les programmes comme d'habitude. Y a-t-il des programmes spéciaux?
Non, Eric, les programmes sont diffusés comme d'habitude. La télévision nationale continue de diffuser ses programmes ainsi que la radio nationale. La télévision nationale a diffusé depuis hier tard la nuit des communiqués, notamment le communiqué sur le décret sur le décret. Sur le décret donc du couvre-feu. Voilà, donc le couvre-feu, la télévision nationale diffuse ce communiqué depuis hier la nuit et ça continue. La radio nationale aussi continue de dérouler ses programmes.
Merci Lamine Traoré pour toutes ces précisions. La veille samedi, des manifestations ont été dispersées à coup de gaz lacrymogène à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso. Toujours Lamine Traoré pour les détails.
Dimanche tôt le matin, les Ouagadougous se réveillent avec des tirs nourris dans des camps militaires. Mutinerie ou tentative de coup d'État, rien n'est moins sûr. Ce riverain est sorti pour s'informer.
Depuis, disons, à 4h du matin, nous sommes à la maison, on entend des tirs, on est sorti venir voir, mais d'après les indiqués, non, bon, c'est un coup d'État. Tout le temps, quand on sort pour manifester, on ne nous donne pas le droit de manifester. Pourtant, c'est nous, on est sortis marcher pour qu'ils viennent au pouvoir. Et le pays ne fait que sombrer. Ça tue partout. Les civils, ça meurt. Les militaires, ça meurt. Nous, on est derrière nos FDS. Vraiment, je regrette de la manière dont mon pays vit actuellement. Le Burkina Faso n'est plus le Burkina Faso d'hier ni d'avant-hier.
Le gouvernement, dans un communiqué, a très vite démenti une prise de pouvoir par l'armée, mais reconnaît qu'il y a eu effectivement des tirs dans certaines casernes. Le ministre des Armées explique ce qui se passe à la télévision nationale et rassure que tout est sous contrôle.
Au petit matin, des tirs ont éclaté dans quelques casernes de Ouagadougou et dans d'autres villes.
Le général Aimé Barthélémy Saint-Poré.
Cette situation est pour le moment en train d'être suivie par nous pour que nous puissions connaître les motivations réelles de ces tirs qui sont entendus. Je demande formellement, le chef de l'État n'a pas été arrêté. Aucune institution de la République n'a été pour le moins inquiétée. Pour le moment, tout est sous contrôle. Nous demandons donc à notre armée de demeurer républicaine, de continuer à exécuter ses missions de protection de nos territoires et des populations.
Des tirs ont continué dimanche nuit dans des quartiers de Ouagadougou, Padoua, Gounguin, selon plusieurs riverains, ajoutant qu'un hélicoptère a survolé les différentes zones. Dimanche soir, le président Kaboré a instauré un couvre-feu de 20h à 5h30 du matin sur toute l'étendue du territoire national, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Les établissements scolaires vont rester fermés lundi et mardi au regard de la situation nationale marquée par des mouvements d'humeur dans certaines casernes, a annoncé le ministre de l'Éducation nationale dans un communiqué. La veille, samedi, les rues de Ouagadougou ont été déjà très agitées avec des courses-poursuites entre les manifestants et les forces de l'ordre. La marche n'a pas été autorisée selon les autorités. Ce manifestant n'est pas d'accord.
Le gouvernement devait autoriser la marche là parce que c'est non-vote. Hein. C'est non-vote. Disent que non, la marche n'aura pas lieu, c'est pas normal.
Les objectifs de la marche, selon Haruna Loure, un médecin et l'un des initiateurs de la marche.
Initialement, nous avons dit que les sanctions uniques contre la CEDEAO, nous devons dénoncer ça. Il y a une manifestation internationale. Mais il se trouve que nous vivons dans un Burkina Faso aujourd'hui où la corruption, la malgouvernance sont mis au premier plan. Sans parler de ça, aujourd'hui, nos libertés individuelles les plus minimes, nous ne pouvons plus les exprimer. Aujourd'hui, il y a Facebook qui est coupé, on coupe Internet quand on veut, et un ministre qui est porte-parole ose nous dire qu'il n'a pas de compte à rendre au peuple. C'est le peuple qui les a mis là-bas, ils ont des comptes à rendre au peuple.
Le calme est revenu dimanche soir, à la faveur du match des étalons qui ont aussi décroché leur qualification en quart de finale de la CAN qui se joue au Cameroun. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Merci Lamine. Parlant justement de la CAN, coup de tonnerre à la Coupe d'Afrique des Nations de football, le Nigeria éliminé dès les huitièmes de finale battu par la Tunisie, 0-1. Les Aigles de Carthage ont rejoint les étalons du Burkina, oui, au quart de finale. De Yaoundé, le journal de la CAN d'Emmanuel Jules Tape. Bonjour Emmanuel.
Bonjour. Après un score de parité d'un but partout, jusqu'aux prolongations, c'est la séance de tir au but qui a départagé Burkinabé et Gabonais. Score final, 7-6 en faveur du Burkina Faso. Une qualification célébrée par plusieurs milliers de personnes dans les rues de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, nous dit notre correspondant sur place, Alidou Ouédraogo.
Les griffes et les dents des panthères du Gabon n'auront pas suffi à ranger les étalons du Burkina dans les écuries. Le 11 national burkinabé a passé par toutes les étapes ainsi que leurs supporters. Et ce sont des scènes de liesse qui ont accompagné cette victoire des étalons. Vive les étalons, on vous aime, la coupe au Burkina Faso. Ce sont les mots qui ont animé les artères de Bobo-Dioulasso.
Aujourd'hui, nous sommes tous très contents. On ne sait même pas comment exploiter les mots. Mais vraiment, on est trop dépassés aujourd'hui. Vraiment, vive les étalons et bonne chance à tous les étalons.
Voilà, les étalons ont gagné. Je suis très très content. Voilà, les étalons le méritent. Cette victoire-là, les étalons méritent ça.
Vraiment, on est content. Et parce qu'on a gagné, mais nous ne sommes pas contents parce que les étalons ont failli, qu'ils ont failli faire et ce côté-là vraiment ne nous a pas plu.
À Bobo-Dioulasso, la correspondance de Alidou Ouédraogo pour VOA Afrique.
À Garoua, la Tunisie a fait sensation en éliminant le Nigeria, auteur d'un parcours sans faute au premier tour. Un seul but inscrit à la 47e minute par Youssef Messakni a suffi pour désillusionner les Super Eagles. Deux matchs de huitième de finale sont au programme ce lundi. À Bafoussam, la Guinée-Conakry joue contre la Gambie. Tom Saint-Phil, le sélectionneur gambien, veut continuer à écrire l'histoire du football gambien. Nous l'écoutons au micro d'Amédiensi.
Mais on a une équipe qui est ici pour écrire l'histoire. Qui est très motivé pour gagner pour le peuple à domicile et on aime de gagner sont, ils ne changent rien. Maintenant, on doit gagner. Autrefois, on doit partir ici. Le seul job est là, le seul travail est rester ici. On doit gagner. Naturellement, il y a des autres pays qui sont qualifiés pour le deuxième tour avec deux défaites et avec une victoire. C'est un sentiment différent, je pense, parce qu'on a gagné deux matchs et match nul, on n'a pas perdu. Dans ce tournoi, on peut seulement une fois perdre ce match et c'est le dernier match qu'on est là. Et j'espère que ça ne passe pas, on a quatre matchs.
L'entraîneur de la Guinée-Conakry sait que la Gambie n'est pas un faire-valoir. Il vaut tout le respect nécessaire à cette formation. Kaba Diawara, au micro d'Amédine Si.
La Gambie, c'est peut-être une surprise pour vous, parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'ils participent à la CAN, mais c'est une équipe qui n'a pas changé de coach, c'est une équipe qui joue ensemble depuis 3-4 ans, ils ont un projet de jeu bien défini, bien clair, donc on les a étudiés, et voilà, c'est une équipe solide qui prend vraiment pas beaucoup de buts, voire pas de but, et après qui se projette vite en contre, donc voilà, ce n'est pas une équipe surprise. S'ils sont dans le top 16, ça veut dire qu'ils n'ont pas voulu leur place, donc on va faire très attention à elles, on va respecter cette équipe et on va essayer de rester dans notre cadre et bien sûr avoir la qualification. Que l'on joue dans un schéma ou l'autre, de perdre un joueur comme Naby, qui à mon sens est notre capitaine, notre star, il fait partie des meilleurs joueurs de la compétition à coup sûr depuis le début. Donc, quand je joue dans un système ou l'autre, de perdre un tel joueur qui fait partie des top africains, c'est une perte pour n'importe quel entraîneur.
À Yaoundé, le Cameroun affronte les îles Comores, décimées par des cas de Covid, 12 au total. Les deux gardiens de but, encore opérationnels de l'équipe, ont eux aussi été testés positifs. Une situation bien embêtante, Jean-Daniel Padovani, l'entraîneur des gardiens de but de la sélection des îles Comores.
C'est une situation particulière, on ne va pas le cacher. Hein. C'est vrai que quand on a eu tous ces cas de Covid dans les deux gardiens, en ayant un gardien blessé, on a été étonné. Mais voilà, on s'est de suite remobilisé pour se remettre au travail et pour trouver les meilleures solutions possibles. On a eu des potentiels gardiens. Voilà, c'est assez cocasse, on rigole. C'est assez cocasse parce qu'on préfère le prendre comme ça. Maintenant, on va se battre avec nos valeurs, avec tout ce qu'on... Tout ce qui nous a amené jusqu'ici, jusqu'à présent. Le gardien, on ne l'a pas encore déterminé. De toute façon, même si on l'avait déterminé, je ne le dirais pas.
C'est la fin du journal de la CAN. Alidou Ouedraogo, Amédine Si, Emmanuel Junta, VOA.
Merci Emmanuel. Dans le reste de l'actualité, la coalition au pouvoir au Sénégal, Benobok Yakar, a reconnu dans un communiqué sa défaite face à l'opposition à Dakar, la capitale, et Ziguinchor, la plus grande ville du sud du pays, lors des élections municipales de dimanche. Les listes de l'opposition étaient dirigées à Dakar par Barthélémy Diass, proche de l'ancien maire Khalifa Sall, et à Ziguinchor, plus grande ville de Casamance, par Ousmane Sonko, pressenti comme un des principaux concurrents à la présidentielle de 2024 et figure centrale des manifestations de mars 2021 qui ont secoué le Sénégal.
En Libye, le chef du gouvernement intérimaire, Abdelhamid Dbeiba, a appelé hier à l'élaboration d'une constitution avant des élections présidentielles et législatives reportées en décembre sur fond de divergences entre camps rivaux. Davantage de détails avec Gaby Dorsil.
C'est lors d'un colloque réunissant plusieurs notables de l'Ouest libyen qu'Abdelhamid Beiba s'est exprimé. Nous avons plus que jamais besoin d'une constitution qui protège le pays et ses citoyens et qui régisse les élections, a-t-il affirmé. Selon le Premier ministre intérimaire, certaines parties ont aggravé la crise avec des lois taillées sur mesure en faveur de plusieurs candidats, en référence à la loi électorale promulguée sans vote en septembre par le président du Parlement Aguila Salé, un allié du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est, tous deux candidats à la présidentielle. Le président du Parlement a proposé mardi la mise en place d'une nouvelle commission, composée d'experts libyens et étrangers, afin de rédiger un nouveau projet de constitution et demander à la commission parlementaire chargée du suivi des élections de fixer avant fin janvier une date définitive pour le scrutin.
Le gouvernement américain a ordonné hier dimanche aux familles des diplomates américains en poste à Kiev de quitter le pays en raison de la menace persistante des opérations militaires russes et de conseiller aux Américains de se rendre en Russie.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, on connaît enfin les noms des membres du Conseil national de la transition. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a annoncé samedi la liste des 81 conseillers du CNT, le CNT qui doit légiférer pendant la durée de la transition. Des réactions à Conakry au micro de notre correspondant Zakaria Camara.
Le CNT est enfin désigné, il sera dirigé par Dansa Kourouma, président du Conseil des organisations de la société civile guinéenne. Mais les hommes et les femmes qui le composent sont loin de faire l'unanimité.
C'est la plus grosse épine que le colonel a réussi à mettre dans sa pied. La plus grosse, sinon jusque-là il a tout bien fait. Normalement, le choix de Dansa est une grande tromperie. Je pense que c'est là où on l'a trompé. Il se rendra compte, mais après.
Dansa pour moi c'est un Guinéen. Si on l'a nommé, on va lui laisser, on va lui voir aussi faire tout ce qu'il peut faire pour la nation. S'il peut défendre les dossiers de la Guinée, il n'a qu'à dossier pour que nous puissions être libérés dans tout ce que nous sommes en train de faire dans la Guinée.
Si c'était mon appréciation personnelle, on n'allait même pas créer le CNT. On allait programmer, créer une équipe, maximum de 25 à 30 membres. On va choisir les trois dernières constitutions que la Guinée a connues. On fait l'analyse de ça, on amende ce qui est amené, on soumet ça à un référendum, on vote.
La mise en place du Conseil national de la transition était l'une des conditions posées par la CDAO, mais aussi l'une des demandes de la classe politique guinéenne. Pour l'enseignant-chercheur Al-Hassan Kake, le CNT doit aider à éviter des conflits entre les pouvoirs.
La révision de la ou la nouvelle constitution, peu importe qui sera adoptée, dans cette constitution, il y aura la possibilité afin que les institutions fonctionnent et que la séparation de pouvoirs soit réelle juridiquement, et que permettre les institutions de fonctionner. Par le grand problème, c'est à ce niveau. Mais si on nous reproduit les mêmes tests, cela signifie qu'on aura les mêmes problèmes.
L'humoriste Mamadou Togg fait partie des nouveaux conseillers. Il dit comprendre la tâche qui l'attend.
Il faut qu'on réussisse à faire une constitution qui va marquer le peuple de Guinée pour la vie, comme les États-Unis, comme la France. Pour ne pas qu'après, qu'il y ait d'autres coups d'État, qu'il y ait d'autres constitutions, ou bien qu'il y ait aussi des nouveaux présidents qui vont changer de constitution. Il est important, nous les représentants de la culture, qu'on réussisse à trouver des textes, des lois et des conventions pour couvrir et doter de la culture des moyens adéquats pour que vraiment, que les hommes de culture, les acteurs culturels puissent enfin vivre que la chose qu'ils aiment. La culture, les arts, etc.
Les membres du Conseil national de la transition étaient présentés par les organisations de la société civile, les partis politiques, les centrales syndicales, les organisations patronales, les forces de défense et de sécurité, les organisations des Guinéens de l'étranger, les organisations de jeunesse, les confessions religieuses, les sages des régions, entre autres. Cet organe législatif est l'un des quatre organes de la transition. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au Bénin, les députés ont adopté le 8 décembre 2021 le nouveau Code général des impôts en remplacement des anciens textes fiscaux vieux de plus d'un demi-siècle. Mais les Béninois sont, dans leur majorité, mécontents de ce nouveau Code qui intervient en pleine période de crise, marquée par la cherté de la vie, nous dit notre correspondant à Cotonou, Ginette Fleur, à Dondé.
pas question de payer plus de taxes alors qu'on arrive à peine à joindre les deux bouts. C'est la rengaine de certains Béninois choqués par les taxes qu'ils doivent payer. Hector Ondi est un entrepreneur. Il pense que les nouvelles taxes finiront par achever sa jeune entreprise.
Tout a augmenté. On parle des funérailles, on parle, si tu vas à la banque, on prend les décisions, on va seulement tomber dans les décisions, on ne comprend pas ce qui se passe. Ce que nous aimons demander à nos autorités, c'est quand ils prennent les lois, c'est pour la population. C'est pour que la population se sente bien dans leur peau. On nous avait parlé du rotement social. On aimerait bien que le gouvernement revienne encore au créneau pour nous expliquer si c'est le rotement social qui a commencé ou bien ça reste à venir.
Pour beaucoup, le gouvernement manque à sa promesse. Il dénonce des mesures qui plongent de plus en plus les populations dans le gouffre du désespoir et de la déception. Armand Soussou est un ouvrier en BTP. Il est conscient que chaque citoyen doit s'acquitter de cette tasse et impôt, mais pas quand tout est si compliqué.
Ça veut dire que, bon, un peu notre gouvernement est en train de tasser la population. Mais néanmoins, si ces tasses sont pour le bien et que ces tasses vont être investies dans des infrastructures qui permettront au pays d'évoluer là, c'est-à-dire c'est quelque chose de très bien. Seulement, sinon on peut revoir tout ça, essayer de faire un partenariat gagnant-gagnant pour permettre non seulement aux populations d'en profiter, mais aussi au gouvernement d'en profiter. Mais c'est quand ces taxes ne sont pas investies ou bien utilisées pour de bonnes causes que ça cause problème.
Alain Soudi est conducteur de taxi moto. Il pense qu'avec ces taxes dont il doit s'acquitter, il ferait mieux de garer sa moto et vaquer à d'autres occupations.
En ce qui concerne cette taxe-là, vraiment, je vois que c'est frappant. Ça joue sur nous. Nous, qui sommes des conducteurs de taxi-moto, on essaie de chercher un peu de quoi survivre pour nourrir un peu nos petites familles. Et puis, on met encore cette lourde charge sur nous. Voilà que ça va peser encore sur nous. Si l'État, le gouvernement pouvait revoir cette copie-là pour nous alléger la tâche, vraiment, ça allait bien.
Devant la polémique, le directeur général des impôts est monté au créneau pour rétablir la vérité et mettre les sociétés qui, sous le prétexte de la création de nouvelles taxes par l'État, ont pris des notes de service annonçant l'augmentation des frais des différentes prestations fournies à leur place. Pour Nicolas Yenoussi, il n'y a aucun lien entre la vie chère et les taxes.
Et ce qui se passe dans tous les marchés et même dans nos marchés traditionnels, lorsque les demandeurs sont nombreux pour les mêmes produits, ce que fait le producteur ou le vendeur, c'est qu'il augmente ses prix, il monte ses prix. Le fret a augmenté. Et lorsque le commerçant importe et détermine à la fin son coût de revient, il est bien obligé de répercuter cela sur le prix de vente. C'est simplement ce qui se passe. Et ce n'est pas une spécificité du Bénin, c'est comme ça dans tous les pays actuellement. Nous souhaitons simplement que la situation sanitaire puisse s'améliorer pour que les choses rentrent dans l'ordre.
Le code général NS6-2021 impose une vingtaine de nouvelles mesures fiscales aux citoyens, aux entreprises et relatives à l'exercice des activités dans divers secteurs de la vie professionnelle. Le manque de vulgarisation par le gouvernement entraîne une mauvaise interprétation et la surenchère partout. De Cotonou, Jeannette Fleur-Adonné pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En République démocratique du Congo, plus de 600 000 dollars attribués à l'hôpital général de Kinshasa pour la lutte contre le Covid-19 sont introuvables selon un rapport de l'ODEP. L'Office de la dette publique a publié un rapport sur la question en collaboration avec le mouvement citoyen Filimbi. Eddy Issango a joint à Kinshasa d'abord le directeur de l'ODEP, Florimond Muteba, et l'un des porte-parole de Filimbi, Palmer Kabeya.
Oui, le rapport que l'ODEP avec le mouvement citoyen Filimbi que nous venons de publier fait suite à une enquête que nous avons menée sur la manière dont les fonds alloués à la gestion de la pandémie de la COVID-19 au grand hôpital de Kinshasa, comment ces fonds ont été gérés. Bon, il s'avère que sur environ 680 000 dollars qui ont été donnés, donc on arrive à retracer uniquement les derniers fonds, c'est-à-dire les 80 derniers 1000 dollars qui ont été donnés comme subvention, mais les 600 000 autres, il n'y a aucune trace. Les 600 000 autres avaient été gérés par l'équipe de Dr Ngovila, le grand frère du gouverneur Ngovila, Chantini, qui était là-bas, qui malheureusement maintenant est décédé. C'est cette équipe-là qui avait géré cette partie dont on n'arrive pas à avoir la traçabilité. Et donc, et pour lesquels, par exemple, les marchés ont été passés très souvent de gré à gré. Allez, l'opacité. Voilà donc pour ça. Alors, nous avons demandé à l'inspection des finances et à la Cour des comptes, après que nous ayons lancé notre alerte, qu'ils puissent aller approfondir les enquêtes et puis que les criminels soient punis.
De leur part, ceux du mouvement citoyen Filimbi estiment que même si l'une des personnes mises en cause est décédée, la justice doit continuer son travail. Suivons le porte-parole de Filimbi, Filmer Kabia.
Je pense qu'il y a la continuité de l'État. Le docteur Paulin Ngobila qui est décédé, mais dans les rapports, nous avions nommément cité aussi le comptable qui est encore là sur place, qui n'a pas voulu coopérer avec Filimbi, notre mouvement bien sûr, et l'ODEP. Donc je pense qu'il y a continuité de l'État, les gens qui sont restés en continuité, notamment le comptable qui est sur place, devient normalement être interpellé pour qu'on sache la vérité, comment est-ce que l'argent de Congolais, l'argent de la République, l'argent de contribuables et des partenaires de la RDC a été géré. Je pense qu'il y a continuité de l'État à ce niveau, il faut que la justice fasse exactement le travail.
Le directeur de l'ODEP, Florimond Mouteba, est l'un des porte-parole de Filimbi, Palmer Kabeya. Le collectif Kurt Rajmé et Ladj Li, le réalisateur primé des Misérables, ont ouvert au Sénégal, avec un an de retard, leur première école gratuite de cinéma en Afrique. Il s'agit de la troisième en moins de 4 ans après celle en France. Les détails avec Dili Diko.
À Kurt Rajmé, 11 aspirants scénaristes ont commencé les cours le mardi 18 janvier dans un immeuble reconverti en espace culturel en plein cœur de Dakar. Thomas Nissangaré est le co-directeur de l'école Kurt Rajmé.
Aujourd'hui, le Sénégal est devenu incontournable au niveau de la production audiovisuelle, en particulier les séries. Elle accueille aussi énormément de tournages internationaux par rapport aux autres pays de la sous-région.
L'école devait initialement ouvrir en 2021, après celle de Montfermeil dans la banlieue parisienne et celle de Marseille au sud-est de la France. Mais la pandémie de Covid-19 a obligé les fondateurs à revoir leur calendrier. Malgré la notoriété de Ladj Li, réunir les fonds n'a pas été simple et les lourdeurs administratives ont davantage compliqué les choses.
C'est vrai qu'avec la notoriété, Kurt Rajmé, tout ce qui a pu se passer là, ces dernières années avec mon film Les Misérables, c'est vrai que ça ouvre pas mal de portes et ça peut nous faciliter sur certaines choses. Mais comme je dis, ça reste quand même le parcours du combattant, de se dire qu'on veut créer des écoles gratuites, ouvertes à tous, c'est vrai que c'est pas évident. Sincèrement, on pensait que ça serait un peu plus facile et qu'on trouverait plus facilement des fonds, mais c'est pas le cas, faut se battre au quotidien.
Les élèves scénaristes ont été choisis parmi des centaines de candidats et à partir de juin, l'école accueillera 18 apprentis réalisateurs. Écoutons à nouveau Thomas Nissangaré.
L'école Kurt Rajmé Dakar, c'est d'abord une première session de scénaristes sur 5 mois qui passe le relais à 18 élèves en réalisation et sur 6 mois. Et donc à l'issue de cette année, l'objectif étant d'avoir 2 courts-métrages et 1 pilote de série réalisés par nos élèves.
Après le Sénégal, les fondateurs prévoient d'ouvrir prochainement des écoles de cinéma au Mali, au Burkina et en Côte d'Ivoire.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sebudia et Eric Manirakiza. À la mise en onde, Lionel Gahima. À la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.